grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Oui, nous recevons Alina et Avologa. Donc Avora qui est russe, pour parler de la situation de l'homophobie, notamment en Russie. Donc bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc parce qu'Avora fait partie des personnes donc, qui ont été soumises à ce problème, donc qui en ont souffert et qui est d'ailleurs aujourd'hui en France à cause de ça. Donc Avora ne parlant pas français, si Alina peut un peu nous expliquer sa situation.
Oui, voilà, donc nous sommes deux aujourd'hui, mais en réalité, la plupart du temps, c'est moi qui vais parler de la situation actuelle en Russie, mais Avora, elle a activement participé à la préparation de cette émission, parce qu'elle connaît notamment le terrain, elle est activiste LGBT en Russie, donc elle a participé à de nombreuses manifestations, et si elle est aujourd'hui ici, c'est parce qu'elle est en demande d'asile. Pour essayer d'échapper à une situation qui s'est vraiment très dégradée, notamment pour sa vie personnelle.
Donc une situation qui s'est dégradée parce qu'il y a une dégradation en Russie en ce moment, ou ça date d'il y a longtemps et ça a toujours été un peu comme ça ?
C'est vraiment les situations qui se dégradent de plus en plus aujourd'hui. Effectivement, Avora a participé à des manifestations et donc aujourd'hui en fait elle est recherchée par la police, c'est pour ça qu'elle est obligée de demander de l'aide à d'autres pays, mais justement s'il y a ces manifestations là, c'est parce que donc quelque part les représentants de la communauté LGBT, donc les lesbiennes, gays, bi et trans, qui se soulèvent contre les injustices qui sont de plus en plus présentes dans la société, dans la politique du gouvernement actuel. En fait, si on veut rentrer un petit peu plus dans le contexte, essayer de comprendre comment on est arrivé là aujourd'hui. En réalité, l'homophobie, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau en Russie, comme dans beaucoup d'autres pays. Et en fait, les premiers cas de discrimination légalisés, donc inscrits dans la loi, ont été connus au début du XVIIIe siècle, donc avec la politique de Pierre le Grand à l'époque. Et,
avec des choses explicitement écrites dans la loi sur ces
questions. Oui, voilà, donc à l'époque ça concernait plus précisément les militaires, donc l'armée. Donc ça... En fait, la loi interdisait aux hommes homosexuels de rentrer dans l'armée. Depuis cette époque-là, donc il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire de la Russie, avec donc les différentes phases de criminalisation, décriminalisation, jusqu'à l'abolition en fait en 1993. Donc ça s'est passé donc peu après que l'Union soviétique a cessé d'exister et quand la Russie est entrée dans le Conseil européen. Donc ça c'était une, on va dire, une première longue phase qui est restée dans l'histoire. Et donc ensuite, ça a commencé à changer de nouveau. La date qui a marqué vraiment l'histoire, c'était 2003, les législateurs ont eu de nouvelles initiatives de loi qui essayaient de criminaliser de nouveau l'homosexualité. Et donc depuis 2003, ça n'a pas arrêté de se dégrader. D'une part au niveau législatif et d'autre part donc il y a eu une sorte d'escalade de la haine dans la société.
Alors on disait que c'était des lois qui concernaient la discrimination et aussi la criminalisation, ça veut dire discriminer est une chose, mais criminaliser ça veut dire qu'on peut encourir des peines, se retrouver en prison ou...
Alors Aujourd'hui, non. On parle donc d'une loi qui a été votée en juin 2013 et qui vise en fait l'interdiction de ce qu'on appelle la propagande de l'homosexualité. Donc encore faut-il comprendre ce que ça veut dire. Mais cette loi, on aura l'occasion peut-être d'en parler vraiment un petit peu plus en détail. C'est pas l'unique initiative. Donc il y a d'autres propositions de loi qui existent et qui sont actuellement à l'étude. Qui peuvent aller jusqu'à la criminalisation de l'homosexualité comme phénomène. Enfin, pour l'instant, en fait, c'est la propagande qui est amendable, mais ça peut effectivement aboutir à d'autres initiatives beaucoup plus graves.
Et dans les exemples d'escalade de haine, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous donner comme illustration? Qu'est-ce qui s'est passé d'événements forts, en fait, dans ces dernières années?
Alors, on peut effectivement commencer à parler des toutes premières tentatives d'organiser une gay pride à Moscou. Où donc à l'époque il y a quelques personnes seulement qui ont osé participer à cet événement et qui ont tout de suite rencontré des réactions très très violentes des militants nationalistes religieux et donc cet événement a été interrompu par les services de la police. Ensuite, donc il y a eu des tentatives d'organiser la Gay Pride tous les ans, quasiment. Toutes ces tentatives ont été systématiquement bloquées par les autorités de Moscou. D'un autre côté, il y a eu aussi une sorte d'évolution positive. Donc, notamment en 2011-2012, il y a eu de nombreuses démonstrations de l'opposition au pouvoir politique en place. Et donc, pendant ces manifestations-là, il y a eu aussi les représentants de la communauté LGBT qui ont manifesté ouvertement. Donc, parmi les autres opposants, qui ont été clairement identifiés comme les représentants de la communauté LGBT et sans pour autant être marginalisés ou chassés par d'autres manifestants. Chaque tentative de se montrer, de revendiquer les droits, on rencontrait vraiment des réactions violentes de la société et des extrémistes qui ont organisé des contre-manifestations dans un premier temps et qui ont commencé plus tard à s'organiser donc en groupe pour mener des actions planifiées contre les personnes qu'ils considèrent comme gays, lesbiennes, bi et trans.
Donc il y a un peu un cercle vicieux où il y a une opinion publique qui prend aussi, qui estime qu'elle a aussi cette possibilité, ce pouvoir de se battre contre les homosexuels et lesbiens, parce qu'elle a aussi la loi derrière qui la soutient. Et d'un certain côté, j'imagine que les pouvoirs publics se disent on a l'opinion publique qui nous permet d'aller encore plus loin dans la loi.
Voilà, tout à fait. On est tout à fait dans ce genre de cercle vicieux. Ce qu'on voulait souligner, c'est donc surtout on en parle beaucoup, donc c'est quelque chose qui est assez médiatisé aussi, donc c'est avec le vote de cette nouvelle loi contre la propagande, donc on en parle beaucoup. En même temps, on peut se dire la propagande, il y a des pays où c'est beaucoup plus grave, où effectivement l'homosexualité est considérée comme un crime qui peut être puni parfois même par la peine de mort, donc pourquoi on en parle autant alors qu'en Russie c'est juste une hypothétique propagande qui est amendable, donc c'est pas grave du tout. Et en fait, ça nous semblait vraiment important de souligner quelques points pour vraiment essayer de démontrer pourquoi c'est grave. Tout d'abord, donc ça paraissait important de dire que ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large. Donc, d'un côté, il y a effectivement donc la discrimination de cette minorité-là, mais en fait, on assiste à la privation vraiment progressive et systématisée des droits fondamentaux dans un pays qui se range du côté des pays développés et démocratiques, quand même. Et donc, évidemment, donc les LGBT ne sont pas la seule minorité entre guillemets qui est ciblée par ces persécutions. Donc, parallèlement, on assiste aussi à une politique agressive qui est menée à l'encontre de l'immigration, des journalistes, des médias indépendants, des organisations non gouvernementales, des ONG, voilà, pardon, les associations financées grâce aux fonds étrangers. Il y a une politique qui est menée contre les opposants au pouvoir de Poutine de façon générale, contre les personnes qui sont athéistes ou d'autres religions qu'orthodoxes. Il y a de nouvelles lois qui entravent la liberté d'expression. Il y a de nouvelles institutions qui ont été créées pour mieux contrôler et brider tout ce qui se passe sur Internet. Il y a aussi la nouvelle politique familiale qui est encore au stade d'étude, mais qui prévoit notamment de condamner socialement toutes les relations hors mariage et de marginaliser par exemple les familles monoparentales où les familles ont moins de 3 enfants. Donc voilà, c'est un mouvement vraiment beaucoup, beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que c'est quelque part un son d'alerte. Attention, donc ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans...
qui est plus profond.
Qui est beaucoup, beaucoup plus profond.
Notamment, j'imagine, lié à la question de la liberté d'expression, parce que je pense qu'on va y revenir, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot propagande ? Ouais. Est-ce que c'est de la propagande ou juste le fait de dire qu'on existe et qu'on a des choses à dire ?
Voilà, ça a suscité vraiment beaucoup de débats, vraiment, donc la définition de la propagande. Donc on peut vraiment revenir sur cette question après une petite pause musicale. Вороны, москвички, меня разбудили. Промокшие спички надежду убили. Курить значит буду дольше жить. Значит будем корабли мои гавани жечь. На рубли поменяю билет. Отрастить бы до самых поплеч. Я никогда не вернусь домой с тобой. Мне так интересно, а с ними не очень. Я вижу, что тесно. Я помню, что прочно. Дарю время, видишь, я горю. Кто-то спутал и поджег меня, ривидерчи. Не учили в глазок посмотреть, и едва ли успеют по плечи. Я разобью турникет и побегу по своим, обратный чинч на билет. Я буду ждать, ты звони. Мои обычные 6. Я стала старше на жизнь. Наверное, нужно учесть. Корабли мои гавани. Не следим, как поплаваем. Стрелки ровно на 2 часа.
Donc on est toujours sur l'émission Le Grain de Sable, donc avec nos invités Alina et Aurora pour parler donc de la question des attaques contre les homosexuels, lesbiens, trans en Russie. Alors Alina, on a écouté un morceau donc russe. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, voilà. Donc en fait c'est une chanteuse qui s'appelle Zemfira et donc c'est une chanson qui date, je dirais, du début des années 2000, et c'est une chanteuse tout simplement qui est considérée par la communauté LGBT en tout cas comme l'une des leurs. Voilà, c'est un peu représentatif de la scène musicale russe à la fois, donc largement aimé et coté, mais plus particulièrement apprécié par des personnes gays et lesbiennes.
On parlait justement de liberté d'expression. Est-ce que dans ses chansons, elle parle de ces thèmes ou c'est pas
absolument
possible?
Voilà. Absolument pas. Il y a effectivement donc un nombre d'artistes qui ont un petit peu cette image de folle, on va dire plutôt. Donc vraiment des gays très stéréotypés et qui jouent avec cette image-là. Sans jamais vraiment clairement dire qu'il s'identifie vraiment à des personnes gays. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est une image ou pas. Et puis il y a d'autres artistes qui, comme tout le monde pense ou comme tout le monde sait, ils le sont, mais ils ne le diront jamais.
Mais quand on parlait d'ailleurs dire ou pas dire, donc tu nous as parlé de ces tentatives de légaliser la discrimination en portant notamment sur la question de la propagande. Alors, ouais. Qu'est-ce que veut dire le terme propagande? Est-ce que c'est juste, comme on disait tout à l'heure, juste brider la liberté d'expression, de dire qui on est et le droit d'exister?
C'est vraiment une bonne question. Il y a eu beaucoup de débats autour. Alors, d'abord, il faut dire peut-être que cette fameuse loi contre la propagande, en fait, elle fait partie d'une loi beaucoup plus générale qui concerne la protection de la santé des enfants. Et cette donc petite loi, cet amendement complémentaire, en fait, elle punit d'amende. Alors, je vais citer plus ou moins, donc avec une traduction plus ou moins libre. Alors, la propagande auprès des mineurs des relations sexuelles non traditionnelles, cette propagande étant définie comme la diffusion de l'information devant orienter les mineurs vers les relations sexuelles non traditionnelles, éveiller l'intérêt envers de telles relations, les représenter comme attractives et laissant penser de façon erronée que les relations sexuelles non traditionnelles ont la même valeur sociale que les relations traditionnelles. Donc en fait, c'est beaucoup de mots pour rien dire. Ce qu'on retient de cette formulation, qu'on parle plutôt des relations sexuelles non traditionnelles, même si tout le monde sait qu'on parle plutôt des relations homosexuelles. Et donc effectivement il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de spéculations sur cette question. On se demandait est-ce que ça voulait dire que maintenant on allait interdire toute littérature par exemple où il y a une mention de l'homosexualité, ou est-ce qu'on allait interdire la diffusion des films où sont montrées des relations homosexuelles, est-ce que simplement le fait de dire, de se revendiquer comme tel serait considéré comme de la propagande. Donc personne n'était vraiment capable de répondre clairement à cette question, y compris d'ailleurs les législateurs qui étaient à l'initiative de cette loi. Et donc récemment, un organe exécutif qui est le Service fédéral de supervision des communications, des technologies d'information et des médias a publié un document officiel qui a justement pour vocation d'expliquer ce que c'est que cette propagande. Alors ce document, il tient sur 70 pages à peu près, donc impossible de citer vraiment, de rentrer dans les détails, mais donc on a retenu quelques exemples, vraiment des exemples très concrets qui concernent notamment des représentations médiatiques qui pourraient correspondre à cette définition de propagande. Alors, je cite. Par exemple, un couple qui entretient une relation sexuelle non traditionnelle peut être représenté comme remarquable et sympathique.
Par exemple, c'est de la propagande.
C'est considéré comme de la propagande. Voilà. Par exemple, un couple marié hétérosexuel peut être représenté comme brutal et répugnant. Ça, c'est de la propagande de l'homosexualité, donc des relations qui ne rentrent pas dans le cadre des relations traditionnelles. Ou encore, par exemple, l'approbation directe ou indirecte des personnes ayant des contacts sexuels non traditionnels. Ou, par exemple, sur beaucoup de sites internet faisant la promotion de relations sexuelles non traditionnelles, on publie des données statistiques en lien avec l'adoption des enfants par des couples homo et hétérosexuels. Ce genre d'informations sorties du contexte est susceptible de donner aux enfants et adolescents l'idée qu'un couple homosexuel est capable de venir à bout des responsabilités parentales aussi bien qu'un couple hétérosexuel. Donc, par défaut, un couple homosexuel ne peut pas faire de bons parents. Donc, dire que c'est le cas, c'est de la propagande.
Ça fait écho à des choses qui se sont aussi passées chez nous, quand on voit qu'il y a aussi dans la population des gens qui estiment qu'on ne peut plus faire confiance à l'éducation nationale, qui nous ferait croire qu'un garçon peut jouer à la poupée et une fille aux voitures. Il faut aussi qu'on fasse attention par chez nous, justement avec des, aussi des exemples d'ailleurs, qui peuvent nous montrer à avoir vraiment une résonance sur ce qui est en train aussi de se passer en France.
Absolument, sauf que là, c'est vraiment inscrit dans la loi.
Et puis, c'est un peu curieux parce que, notamment, le premier exemple que tu donnes, un couple qui entretient une relation sexuelle non traditionnelle peut être représenté comme remarquable et sympathique. On n'a pas l'impression que ce genre de choses, ça s'adresse à des mineurs. Enfin, je veux dire, l'impression que finalement, la loi, parce que dans la loi sur la propagande, c'est bien la propagande auprès des mineurs, mais quand on lit ce genre de phrase, on a plutôt l'impression que ça s'adresse à des majeurs, parce que bon, mineur, ça va jusqu'à 5-6 ans, on voit pas trop montrer quand même ce genre de choses, enfin je veux dire n'importe quelle relation sexuelle qu'elle soit, donc c'est même un peu curieux quoi, parce qu'on a l'impression que c'est bon plus large.
Bon, comme on parle ici des médias, par exemple, donc ça veut dire que toute émission, enfin, on peut le comprendre comme ça, en tout cas, que toute émission, je sais pas, un débat civilisé, par exemple, qui présente un couple, enfin, une personne qui est homosexuelle, donc bah, le fait de présenter cette personne dans un contexte positif ou en faire, enfin, la présenter comme quelqu'un de bien. Ben, ça pourrait déjà être considéré comme de la propagande parce que cette émission peut éventuellement être
regardée par les mineurs.
Voilà. Évidemment, c'est un prétexte. Mais...
Bah, bien sûr. Parce que tout n'est pas regardé par les mineurs en plus. C'est vrai que c'est un peu curieux.
Voilà, donc ça, c'est en ce qui concerne l'interprétation de cette loi. Et donc après, on peut aller regarder ce qu'en font les individus ou les autorités, par exemple, parce que ben, tant qu'il n'y a pas, enfin, ce document que je vous ai cité, il existe depuis pas très longtemps, et jusqu'à là, ben, c'était un peu, c'était libre à chacun d'en penser, d'en faire ce qu'il en veut. Donc, on peut dire. Donc d'une part, dans la société, cette loi a vraiment été compris comme une sorte de message qui était envoyé par le législateur et qui était une incitation à l'action. Donc ça veut dire que bah, les gens ont entendu le législateur qui disait « bah oui, je considère que les homosexuels sont des citoyens de seconde zone et oui, j'approuve que ce phénomène soit condamné et réprimé ». Donc du coup... les individus qui, jusqu'à là, ne se prononçaient pas vraiment sur la question, parce que c'était une sorte de question tabou. Donc, c'est pas qu'on en pensait mal, on pensait rien du tout, en fait, on n'en parlait pas. Donc là, à partir du moment où on a commencé à en parler au niveau de la loi, bah, c'était un peu vraiment l'incitation à faire de la chasse aux sorcières.
Donc il y a par exemple des dénonciations aussi de...
Alors, il commence à y avoir des dénonciations. Bon, bah, évidemment, les exemples les plus répandus, c'est les exemples du quotidien. Donc il y a des gens qui rencontrent de l'agression verbale. Donc ça peut arriver aux personnes qui sont homosexuelles ou des personnes qui peuvent tout simplement être identifiées comme homosexuelles par leur entourage parce qu'ils correspondent à des images stéréotypées. Des gens qui s'habillent par exemple entre guillemets comme des PD. Donc les personnes homosexuelles sont souvent obligées de se cacher. Donc, ils se cachent de tous, y compris de leur famille, leurs amis, collègues. Donc, on peut évidemment perdre son travail.
Voilà, est-ce que c'est aussi une loi sur la propagande ou ça peut aussi justement faire qu'on ne sera pas embauché ou qu'on peut effectivement...
Voilà, même avant qu'on puisse vraiment donner une explication, une définition au mot propagande, il y a eu des cas de perte d'emploi par des personnes parce que bah, le fait de dire que la propagande de l'homosexualité c'est mal, donc l'homosexualité c'est mal, donc ces personnes-là ne valent pas le coup d'être embauchées, ils ne valent pas le coup de vivre leur vie comme des personnes normales, et donc du coup on peut en faire ce qu'on veut.
Et les gens, j'imagine, qui portent pas trop plainte, ou même ils vont pas forcément contester la rupture de leur contrat de travail dans ce contexte en plus particulier, quoi.
Oui, voilà. Non seulement dans le cas de perte de travail, même. Par exemple, l'organisation Human Rights Watch a recensé de nombreux cas d'agression dans les lieux publics, d'enlèvement, d'abus physiques, de menaces et d'harcèlement envers les personnes homosexuelles. Et évidemment, les victimes ne portent pas plainte. En fait, il n'existe pas vraiment de statistiques à ce sujet-là, mais une association russe qui est basée à Saint-Pétersbourg a mené une enquête à ce sujet. Une enquête anonyme qui a été menée auprès de plus de 2000 personnes. Et les résultats de cette enquête montrent que plus de 50% des interrogés ont subi harcèlement et pression psychologique. 15% des interrogés ont été agressés physiquement et seulement 6% ont demandé de l'aide à la police.
Et cette association, ce qu'on parlait tout à l'heure, propagande, elle a la possibilité de mener cette enquête et de la publier. Elle a pas eu de soucis après ça, justement.
Aujourd'hui, ces associations-là disposent de plateformes internet, donc leur site internet. Ou pour l'instant, oui, ils peuvent effectivement publier leurs communications, leurs statistiques, leurs enquêtes. Peuvent avoir des espaces forums, des espaces de rencontres, etc. C'est remis en question de plus en plus parce qu'il y a donc maintenant des espèces de listes de sites internet interdits pour telle ou telle raison, donc on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, effectivement, ça existe. Voilà, donc là, c'était donc du côté des personnes, donc des individus, comment ils subissent des agressions de la part d'autres individus. Et d'un autre côté, on a les autorités. Donc différentes entités publiques, commerciales, juridiques, qui ont elles aussi leur façon d'interpréter et d'appliquer cette nouvelle loi. Alors, certains agissent par principe de précaution, si on peut dire ainsi. Donc, par exemple, il y a eu un cas où un site d'information pour femmes lesbiennes a voulu demander du financement de ce site par par le public, donc par les internautes, en passant par une plateforme de financement participatif, donc ce qu'on appelle le crowdfunding. Et donc il y a plusieurs plateformes de financement participatif qui ont refusé de publier la demande de financement de ce site d'information parce que leur direction a décidé que ça leur ferait enfreindre la loi. Donc, alors que normalement, c'est un service qui s'adresse aux adultes, donc ils ont pris la liberté d'interpréter
la loi. Donc la loi sur la propagande des mineurs, elle s'applique pas normalement.
Voilà.
Que ça empêche les solidarités parce que derrière, tout le monde a peur d'aider ou d'avoir.
Tout le monde a peur d'avoir des répercussions.
Considéré comme quelqu'un qui soutient et donc qui rentre
dans le cadre de la propagande. Voilà. Ou donc il y a eu un autre cas. Donc cette fois-ci, c'était la police. Et donc là, je vais peut-être demander à Aurora de raconter un petit peu cette histoire, qui la connaît un peu plus en détail.
Достаточно необычная ситуация произошла в Брянске, когда 15-летнюю школьницу поставили на учет в полиции за то, что якобы она пропагандировала нетрадиционные отношения. И выражался это, собственно, в том, что она сама являлась лесбиянкой. Как заявила Елена Климова, организатор группы «Дети 404», то, что девочка, разумеется, ни к чему не призывала, просто в какой-то момент ее вычислили в интернете, узнали телефон школы, родителей и начали травлю.
En fait, il s'agit d'un cas qui a été pas mal médiatisé en Russie. Ça s'est passé dans la ville de Briansk. C'est une élève de 15 ans qui a été enregistrée dans les registres de la police pour la propagande systématique des relations homosexuelles. Et en fait, sa faute était tout simplement de se reconnaître ouvertement comme étant d'orientation sexuelle non traditionnelle. Donc il y avait une commission d'enquête qui a même été créée spécialement pour ça et chargée de vérifier si l'adolescente a essayé de violer quelqu'un de ses camarades. Et le plus intéressant, c'est qu'avant cette enquête, évidemment, personne dans son lycée, dans son école, n'était au courant de son homosexualité. Et donc, il y a une journaliste russe, Lena Klimova, qui a créé un groupe de soutien pour les adolescents LGBT, qui raconte que cette fille, en fait, a été traquée sur Internet par les homophobes. Donc là, je cite, elle parlait de son orientation sexuelle dans un réseau social un peu équivalent de Facebook. Elle leur postait les informations des sites thématiques et donc c'est à ce moment-là que les homophobes ont trouvé son numéro de téléphone. Ils ont appelé le directeur de l'école, les enseignants, l'administration de l'arrondissement et même sa mère. Donc ils l'ont outé donc, à tout le monde. Et donc aujourd'hui, cette fille n'est plus enregistrée, donc elle a été rayée des registres de la police. Mais en fait, à cause de cette histoire, donc cette fille est aujourd'hui bien exposée à d'autres agressions et ces agressions en fait connues continuent à l'appeler, à la harceler.
J'imagine que ça doit être difficile de continuer sa scolarité aussi dans la même école dans ces conditions-là.
Voilà, donc on ne sait pas, absolument pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais évidemment, se reconstruire ailleurs, seulement à l'âge de 15 ans, ça semblait vraiment compliqué.
Quand on parlait de propagande envers les mineurs, on est plutôt là où c'est les mineurs eux-mêmes qui sont attaqués. Donc,
par les mineurs et les adultes, ouais.
Россия, 37-й, в моем горле живет кит. Чарли Чаплин стреляет в упор, сплевывает в пол и молчит. Иван Бунин ходит в кино, по бедрам подруги пишет рассказы, а на экране жесткое порно, но детям об этом не скажут вдохновение. Юбки веером вверх, сожаление о том, что не встало, без сомнения. Это было и это будет, и ты опять предашь меня, и хоть на секунду, но все же забудешь. Yeah.
vous êtes toujours sur Radio Canu à l'émission Le Grain de Sable. Donc nous sommes toujours avec Alina et Avroa pour parler de la discrimination et de la criminalisation en Russie des personnes, donc comme on disait, d'orientation sexuelle non traditionnelle. Donc là, on a encore écouté un morceau russe. Donc qu'est-ce que tu peux
tout à fait
nous présenter?
Alors, voilà, c'est un autre groupe qui était à l'époque composé de deux femmes. Évidemment, qui ne sont jamais ouvertement dit lesbiennes, mais qu'on pense l'être. Et je pensais que cette chanson était vraiment bien pour illustrer ce sujet, parce que ça s'appelle La Russie 1937. Et ça parle un petit peu de cette époque qui est connue pour beaucoup de répression. Donc c'était sous Staline. On a un petit peu l'impression aujourd'hui de revenir au même standard.
Oui, c'est comme tu nous présentais la loi sur la propagande, et on voit donc cette violence d'État qui en plus entraîne aussi une violence dans la population, donc avec des homophobes qui se sentent tout permis donc à attaquer des gens, comme l'exemple que tu nous montrais. Donc on va continuer, tu vas continuer à nous présenter aussi des exemples.
Voilà, quelques autres exemples pour souligner peut-être que chaque fois quand on en parle, on parle plutôt des grandes villes, parce que c'est dans ces villes-là, donc c'est les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, qu'il existe quelques associations, quelques réseaux LGBT qui relaient assez efficacement les informations.
Et qui arrivent à exister.
Qui arrivent à exister.
Parce que peut-être aussi qu'il y a aussi une communauté internationale dans ces grandes villes qui fait qu'on est moins menacé aussi.
Qu'on se sent un petit peu plus soutenu, un petit peu plus en lien aussi avec l'extérieur. Donc c'est une grande ville souvent qui offre beaucoup plus d'opportunités aux gens de mener l'action sans prendre trop de risques. Mais évidemment, la situation n'est pas toujours pareille dans des petites villes. Donc, on recense les cas vraiment les plus cruels de discrimination ou même de meurtre. Donc, il y a notamment des gens qui sont tués parce qu'ils sont homosexuels, et donc c'est les meurtres qui sont déguisés en suicide. Il y a eu par exemple un autre meurtre qui était assez terrible, et donc qui a d'ailleurs été assez médiatisé aussi. Donc ça s'est passé en mai dernier à Volgograd. Donc Аврора, peut-être peut nous dire un petit peu plus en détail.
Да, самое известное убийство на гомофобной почве произошло в Волгограде, когда был убит Владислав Тарновой. Его избили, изнасиловали, а потом попытались сжечь тело, и потом убийцы, когда их поймали, заявили, что они это сделали, потому что он был геем, и он оскорбил их патриотические чувства.
Donc en fait, ça s'est passé pendant la fête du 9 mai. Donc c'est le 9 mai en fait que les Russes fêtent la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Un garçon qui a été violé, battu, tué, et donc puis son corps a été brûlé par deux autres personnes, deux jeunes hommes. Et quand la police a arrêté deux suspects, ils ont expliqué que ce jeune homme, donc leur victime, leur avait avoué qu'il était gay. Alors, les proches de ce jeune homme ont démenti cette information. Ils pensaient tout simplement que c'était une stratégie que le meurtrier a adoptée pour justifier la cruauté de leur acte. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cas, ce qui est terrifiant même, c'est qu'on peut croire que en fait, ce motif peut servir de circonstance atténuante, donc que les gens choisissent de dire ça parce qu'ils pensent que ça peut réduire la durée d'emprisonnement ou un peu atténuer la peine.
Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est rentré aussi dans les esprits.
Oui.
Donc complètement. Et tu parlais de citoyens de seconde zone, c'est pas vraiment des hommes ou des femmes, on peut les tuer.
On peut les tuer. Et donc, il y a même des groupes entiers, donc de militants, de soi-disant traqueurs de pervers qui se montent et qui s'organisent un petit peu partout à travers le pays. qui donc c'est des groupes qui disent se battre pour la morale. Donc c'est des gens qui se réunissent par dizaines, qui s'organisent en réseau et qui traquent les gays, donc principalement les hommes bien sûr. Qui les traque auprès des boîtes de nuit, sur les lieux de rencontres, manifestations culturelles et sur Internet. Donc c'est un mouvement qui s'est développé depuis 2012. Donc c'était justement au moment où il y a eu ces discussions sur la loi qui à l'époque était encore en train d'être discutée et votée. Et donc ce sont des groupes qui sont composés principalement par des nationalistes radicaux. Et qui revendiquent leur action comme la lutte contre la pédophilie. Alors, donc, il y a pareil, donc, ça fait écho peut-être à ces débats qui ont eu lieu en France aussi, donc, où on a vraiment tendance à confondre, donc, à faire cet amalgame entre les homosexuels et les pédophiles. Et donc, ce qu'ils font, ces groupes-là, notamment un groupe qui s'est fait beaucoup connaître, qui s'appelle Occupy Pédophilie. Donc, c'est très parlant. Donc c'est des hommes qui font connaissance d'autres hommes ou adolescents sur Internet, qui les attirent au rendez-vous, qui les accusent pendant ces rendez-vous d'être gays, ils les humilient, ils abusent d'eux physiquement, ils les maltraitent de toutes les façons, et ils utilisent des méthodes comme par exemple l'arrosage de leurs victimes avec de l'urine. Ils les battent à sang. Ils filment ces actions et ils mettent les vidéos sur Internet. Donc voilà, ces vidéos qui circulent impunément, qui peuvent être vues par tout le monde.
Et qui ne sont pas sanctionnées.
Voilà.
Et j'imagine que les gens portent pas plainte.
Et ces gens-là, ils portent pas plainte.
Voilà.
Alors, il existe peut-être quelques cas où les gens ont porté plainte, mais...
Mais au final, j'imagine que ces milices restent impunies.
Ils ont peur d'être connus, d'amplifier un petit peu ce mouvement de persécution. Donc, au jour d'aujourd'hui, on compte à peu près une décentaine de vidéos humiliantes de ce type qui ont été filmées dans plus de 30 villes et qui sont toujours disponibles sur Internet.
Donc là, on est même loin d'une quelconque propagande. On est à pas pouvoir se défendre, pas oser se défendre si on est attaqué. On va beaucoup plus loin que la question de la propagande dont on parlait tout à l'heure.
Complètement, oui.
Et ça doit être encore plus compliqué quand on est mineur.
Et c'est encore plus compliqué quand on est mineur, évidemment. Alors, c'est la loi qui est censée protéger les mineurs, mais en fait, c'est les mineurs qui sont visés en première ligne. Parce qu'évidemment, c'est des personnes qui ont le plus de mal de se défendre. Alors, on voulait parler aussi donc, d'un groupe de soutien qui a été créé par une journaliste russe, Lena Klimova. C'est donc un groupe qui a été créé donc, dans un réseau social Vkontakte, équivalent à Facebook. Et c'est un groupe qui est nommé Les Enfants 404. Alors, ça me semblait intéressant d'expliquer pourquoi ce nom de ce groupe. Donc, comme elle explique, cette journaliste, sur Internet, on tombe parfois sur le message d'erreur qui dit erreur 404, page introuvable. Et de la même façon, notre société croit que les adolescents homosexuels n'existent pas, comme si les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres arrivaient sur Terre d'une autre planète étant déjà adultes. Et entre-temps, une famille russe sur 20 élève un enfant LGBT. C'est eux, les enfants 404. Donc du coup, elle a créé ce groupe où les enfants, les mineurs, les adolescents ou même les jeunes adultes peuvent publier leurs photos, leur histoire et donc recevoir de cette façon le soutien d'autres membres du groupe et même parfois, dans des cas extrêmes, demander de l'aide psychologique ou d'autres aides que des psychologues ou des journalistes peuvent leur fournir, essayer de leur fournir.
Je sens que la cible des adolescents, c'est vraiment une cible fragile d'ailleurs, qu'on est soit homosexuel ou pas, c'est aussi une période où on est effectivement en pleine construction de son identité et où on peut avoir besoin de se confier ou d'être soutenu et que là on se retrouve vraiment tout seul.
Voilà, il y a à la fois la famille mais aussi... les enseignants, par exemple, qui vont encore enfoncer le clou, pour pour ainsi dire, donc plutôt de, que de, d'essayer d'aider ou d'expliquer ou de dire donc il n'y a pas de souci, tu es normal, tu es comme les autres. Ils vont essayer de justement d'expliquer aux gens autour que c'est pas normal, et donc ils vont chercher, enfin chercher le moyen de punir et de rééduquer ces enfants-là.
Девочка, живущая в сети, нашедшая любовь между строк, между небом и землей, пальцами пытаясь угадать, надеясь угадать до конца, до конца. Живущая за всем до конца, на последнем этаже. Клавиши, хранящие тепло, таящие вопрос никому, никому. Может быть, на том конце встретив в чем-нибудь чужом, тем что-нибудь отдашь сердце кто-нибудь, отдашь сердце. И знаешь ли, бывает же чудо, знаешь ли, встречают же люди, может быть, и ты тоже, может быть. Девочка, живущая в сети,
забыть. Nous sommes toujours à l'émission Le Grain de Sable avec Alina et Avrora, donc sur la question de la discrimination des homosexuels en Russie. Donc juste avant la pause musicale, donc on parlait du site qui existe, qui permet de soutenir un peu, d'aider les adolescents qui ont une orientation sexuelle non traditionnelle, donc les enfants 404. Et donc là, tu nous disais juste avant qu'on prenne l'antenne que c'est un site qui est en danger.
C'est un site qui est en danger, effectivement, parce que donc, le député, bien connu en Russie aujourd'hui, donc Milonov, qui est à Saint-Pétersbourg, et donc c'est l'homme qui a initié le vote de cette loi anti-propagande au niveau national en Russie, il a porté plainte contre la journaliste qui s'occupe de ce site. Et donc il accuse évidemment de la propagande auprès des mineurs. Il exige sa fermeture. Donc ce site, donc cette plateforme, il risque de fermer, et donc les enfants 404 risquent de rester sans soutien.
Est-ce qu'il y a des soutiens qui peuvent se monter, par exemple depuis l'étranger, justement sur ces questions-là, ou
On sait qu'aujourd'hui il y a quelques associations qui existent effectivement dans d'autres pays, comme les États-Unis ou encore l'Allemagne, qui essaye de mener l'action sur place, donc auprès des ambassades de la Russie, ou encore d'aider les gens, les demandeurs d'asile, de monter des dossiers pour émigrer dans ces pays-là.
C'est reconnu comme une situation qui peut permettre d'avoir l'asile dans les pays étrangers.
Alors, on va demander à Flora. Тот факт, что ты являешься принадлежишь к группе ЛГБТ, это предоставляет тебе право попросить убежище в другой стране?
Ну, это облегчит процесс получения убежища, если я его буду запрашивать, но не знаю, насколько это сработает изначально, но так как случаи именно нападений на основе гомофобии достаточно распространены, это также может являться основанием для получения убежища.
ça peut faciliter effectivement l'instruction de la demande d'asile, en tout cas en France, et puis dans d'autres pays effectivement. Donc il me semble que aux États-Unis notamment, il y a eu des annonces, enfin des déclarations officielles invitant un peu des personnes qui se sentent persécutées en Russie de déposer leur demande.
Donc c'est vraiment reconnu comme une discrimination réelle en Russie.
Oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc on se pose aujourd'hui la question de qu'est-ce qui va suivre en fait. Parce que bon, bah, ça c'est une loi dont on a beaucoup parlé, mais il y en a d'autres lois ou de projets de loi qui existent. Notamment, il existe par exemple une loi qui interdit donc aujourd'hui déjà l'adoption des enfants russes dans les pays où l'égalité des couples de même sexe est inscrite de la loi. Donc par exemple, les Français ne pourront plus adopter les enfants russes. Il y a d'autres projets de loi. Alors, on peut en citer quelques-uns. Donc, il y a eu des propositions, par exemple, de créer des centres de consultation gratuites où donc des personnes homosexuelles pourraient aller demander de l'aide ou du traitement médical pour se guérir de l'homosexualité. Il y a eu des discussions autour de l'interdiction du don de sang pour les homosexuels. Il y a eu des discussions sur l'interdiction de justifier l'homosexualité publiquement. Donc, ce n'est même plus la question de propagande, mais tout simplement de dire que, eh ben, cet homme-là, il est gay et c'est pas grave. Ça peut déjà être puni par la loi.
C'est pas seulement de dire que c'est bien, c'est seulement de dire que c'est pas grave.
Voilà, voilà. Et donc, le projet le plus grave, c'est, qui est en cours d'étude, c'est la suppression de l'autorité parentale et même le retrait des enfants, y compris biologiques d'ailleurs, des familles homoparentales ou des personnes qui ont eu des rapports homosexuels. Voilà, donc aujourd'hui, c'est surtout donc, des familles de deux femmes ou deux hommes qui élèvent ensemble des enfants qui sont vraiment en danger.
Sachant qu'aussi on peut dénoncer sans raison quelqu'un, c'est une bonne raison aussi pour lui faire, par exemple.
Il paraît qu'il y a eu déjà des cas comme ça, oui. Mm-hmm. Donc effectivement, un homme qui a essayé de récupérer ses enfants après un divorce avec sa femme en disant que sa femme a eu des relations homosexuelles.
Et alors comment elle s'organise la résistance en Russie face à cette dégradation? Est-ce que c'est possible?
Alors, beaucoup de gens qui essaient de fuir, d'autres personnes qui essaient de fermer les yeux.
On voit qu'il y a quand même des gens qui font des choses. On parlait du site Les Enfants
voilà, 404. Tout à fait.
On voit quand même qu'il y a des gens qui se battent. Alors, est-ce que c'est. Tu as aussi expliqué que ces mouvements sont en danger, mais il y a quand même une mobilisation qui perdure. Tu parlais des personnes qui avaient essayé aussi d'organiser des gay prides. Donc, est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui continuent à exister? Et puis aussi, comment on peut. On parlait. Tout à l'heure de solidarité internationale, comment on peut les aider au moins en partant des grandes villes où, des fois, avec le pignon sur rue et la communauté internationale, il n'est pas forcément facile de traquer les gens de la même façon.
Il y a effectivement plusieurs associations qui existent et qui continuent à se battre. Donc, à la fois d'ailleurs des associations, mais aussi des militants qui ne s'inscrivent pas forcément dans des mouvements en particulier. Et qui font des actions indépendantes.
Ben ça doit être difficile aussi de se mettre en mouvement, ça veut dire tout de suite être très visible, donc avoir le risque d'être attaqué.
Et puis les gens ne sont pas forcément d'accord sur la façon d'agir, ce qui est complètement normal. Voilà, mais effectivement, l'aide de la communauté internationale serait vraiment la bienvenue.
Et ça peut déjà commencer par l'information, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup au courant de ce qui se passe, c'est pas très médiatisé en France, donc est-ce qu'il y a aussi des lieux où on peut s'informer aussi pour, de ces luttes, de comment les soutenir, parce que rien que de savoir qu'elles existent et de mener des actions ou des réseaux en France, c'est important, enfin en France ou ailleurs d'ailleurs.
Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées, notamment en anglais. Peu d'informations sont connues en français. C'est peut-être l'occasion d'en parler. On essaye de monter justement un petit projet pour essayer de créer une plateforme d'information en français pour être en quelque sorte porte-parole des associations LGBT russes.
Donc ça, c'est sur notre émission qui sera réécoutable et téléchargeable, donc soit sur le site de Radio Canu d'Attaque. C'est des informations effectivement qu'on peut faire passer, donc des liens, même des liens en anglais d'ailleurs, pour qu'on puisse s'informer, et puis aussi la suite de votre projet.
Voilà. Merci.
On demandait comment on dit au revoir en russe.
De ce dernier.
De ce dernier.
Et puis aussi comment on dit merci, parce que merci.
Spasibo.
Pour cette émission.